Pascal Séré.
Et que j'y ai demandé souvent de venir. Et que j'ai été tannante parce que j'adore son travail, puis j'adore l'industrie dans laquelle il travaille. Je crois que c'est un des grands chanceux de la vie. Alors, en même temps, on fait notre chance. Si vous rêvez de faire quelque chose, ben moi, je vous pousse à y penser. Peu importe l'âge que vous avez, foncez, puis ça va suivre. Hein. Quand vous avez la passion, ben l'argent que vous allez faire sur votre passion va suivre. Puis c'est juste d'avoir du courage. Mais des fois, c'est un 3 secondes de courage. C'est peut-être ce que j'ai fait ce matin en redemandant à Robert Dion de venir jaser au micro dans leur CV. Salut, Robert Dion.
Bon matin, Pascal.
Bon matin. On te connaît comme, bien sûr, éditeur du HRI Mag. J'en ai ici une petite copie, là. Quand vous êtes sur Twitch, vous allez pouvoir voir. Je vais le feuilleter avec vous tantôt. Mais ça fait des années, Robert, on peut se tutoyer, on se connaît.
Il n'y a pas de problème, oui, avec plaisir.
Ça fait des années que tu travailles dans le domaine de la restauration qui a été échaudé à travers les dernières années, la pandémie et autres, mais qui, je crois, fait rouler une société. Dans sa culture, dans ses traditions, dans ses tripes. Puis, à Québec, c'est important, on a de superbes tables. On en arrache un peu plus dans les dernières années, mais il y en a qui tiennent le fort, qui font tout pour rester proactifs, pour rester justement ouverts dans la ville de Québec. Ça, c'est une chose. Comment ça se passe en ce moment à Québec, là, avec tes contacts, avec les restaurateurs à qui tu parles? Puis...
Écoute, les restaurateurs qui sont bien organisés fonctionnent très bien.
T'sais, ça veut dire quoi, être bien organisé,
ben, ça veut dire
être
que,
planté depuis 10 ans?
Pas nécessairement. D'avoir une structure administrative très bien faite, avoir un système de réservation et de communication avec les clientèles très bien organisé, avoir une approche employée, une marque employeur, parce qu'avant ça, dans la restauration, ça n'existait pas une marque employeur.
En fait, en tant qu'employé, tu devais te tenir droit.
Oui, mais puis le patron arrivait puis il criait après tout le monde, puis il y avait peu de... Il y avait une grande hiérarchie de hauteur de toc,
okay.
Mais peu de respect de la profession.
Et là, c'est quoi la différence avoir une marque d'employeur?
Tu as vu le groupe Tanière l'autre fois,
oui.
Annoncer qu'il y avait un gym.
OK? Oui. Que,
bon, mais c'est d'avoir des coupons rabais pour les employés, de les faire profiter de leur du programme de fidélisation.
Oui.
Ben, les employés peuvent aussi en bénéficier, d'avoir des programmes qui permettent d'aller acheter dans les commerces locaux avec un escompte,
okay.
Parce que tu es employé d'un. Donc, c'est des petites choses. C'est la marque employeur, c'est le...
Justement, on le voit dans plusieurs entreprises,
oui, tout à fait.
Sauf que là...
C'était moins présent dans la restauration.
OK.
Donc, ça... parce qu'on a réalisé qu'on voulait avoir des employés qui restaient plus longtemps.
Et non nécessairement un roulement.
Exactement.
Parce que c'est pas... mettons, on voyage un peu à travers le monde. Il y a des endroits où c'est une vocation et c'est vraiment une profession. Travailler en restauration, ici, c'est plutôt une job étudiante.
En réalité, c'est un métier... C'est encore un statut domestique.
Ah ouais,
ouais, exactement. Mais tu sais, hier, je parlais avec Jean-Luc, je suis allé au prix Renault-Cyr, d'ailleurs, deux chefs de la région.
Là, tu viens de perdre la moitié des auditeurs. Okay. Qu'est-ce que les prix Renault-Cyr?
Renault-Cyr, c'est un père de la cuisine locale, un gars de Montmagny, qui avait un restaurant qui s'appelait le Manoir des Érables. Écoute, j'ai pas... Puis, à chaque deux ans, ils remettent des prix à des chefs qui sont des ambassadeurs des produits d'ici. Et hier, c'était Kim Côté, de Côté Est, à Kamouraska. Puis il y avait Sébastien Laframboise, qui lui est chef...
Oui, on l'a reçu là, avant Noël.
C'est ça, exactement. Oui. Lui est chef au Parlement.
Oui, puis donc, il a fait l'émission Les Chefs. Là, ça a été tourné dans les dernières
exactement.
Semaines.
Exactement. Donc, eux, ils ont été honorés, ainsi qu'un monsieur qui fait dans le des vinaigres.
Okay.
Puis tu avais un professeur d'école. Donc, c'est un peu des reconnaissances. Puis un peu pour ça que tu me faisais venir ce matin,
oui.
Parce que tu voulais parler de certaines reconnaissances. Mais déjà là, hop, c'est mon téléphone qui est tombé, mais je n'ai pas besoin. J'étais avec
appelez pas Robert pour l'instant.
Exactement. Cette reconnaissance-là des pères, des cuisiniers, etc., existe depuis toujours.
Oui.
Tu sais, que ce soit des Bocuse d'or, que ce soit de toutes sortes de
mais
de
c'est
choses.
Plutôt dans le domaine de la restauration qu'on
oui,
connaît.
Oui, bien, dans l'hôtellerie, si on se retournait dans l'hôtellerie, il y a les meilleurs hôteliers, puis les meilleurs dentistes, puis les meilleurs docteurs. Tu peux aller voir Rate My MD, là, tu sais.
Oui. Rate My Teacher aussi, docteur, quand
Rate My Teacher, exactement. Rate My Chef, c'est plus compliqué parce qu'on les connaît moins. On sait qu'il y a un cuisinier, on connaît les noms, mais quand ils sont reconnus par leur père. Parce qu'hier, il n'y avait pas de consommateurs qui étaient là.
Okay.
C'était vraiment des gens de l'industrie qui reconnaissent l'industrie.
Okay.
Donc, je reviens donc, c'est de plus en plus un métier et ça devrait être encore plus une profession.
Comment est-ce que ça devient un métier, une profession ici? Parce que, comme je disais, moi, je l'ai vu ailleurs puis je trouve que ça fait tellement la différence dans le service. Là. Des expériences de restauration, c'est pas juste que tu as dans l'assiette, c'est aussi les gens qui te servent. Combien de fois je m'assois au bar, Robert, pour vraiment le vivre puis vraiment jaser avec les gens qui y travaillent? C'est agrémenter ton expérience, mais... on le vit parfois un petit peu moins ici à Québec, quoique je pourrais en nommer beaucoup. Ça s'est perfectionné à travers les dernières années, mais comment est-ce que ça devient une profession aux yeux des gens? Sur quoi on doit travailler pour qu'on reconnaisse justement la personne comme étant un professionnel du service?
C'est drôle parce que si tu vas dans un restaurant, tu vas aller du côté de la cuisine,
oui.
Puis la plupart des gens qui travaillent dans la cuisine ont suivi un cours.
Oui.
Si tu vas dans la salle, la plupart des serveurs n'ont jamais suivi de cours.
Et pourtant, il y en a.
Il y en a. Puis il y en a qui en ont servi. Si tu vas dans certains restaurants, mais fondamentalement, c'est un métier qui était des étudiants, des gens qui ont voulu travailler là. Mais ça n'enlève pas la passion. L'école, ça ne change pas la passion. Okay?
Parfois, un passionné est bien meilleur que l'école.
Mais ça veut dire qu'il n'y a aucune barrière à l'entrée. Tu ne peux pas être électricien sans avoir suivi un cours.
Non, s'il vous plaît, effectivement.
C'est un peu ça, oui. C'est un peu ça qu'on essaie de rechercher. Mais là, les écoles en cuisine là, sont pratiquement vides parce qu'on a donné mauvaise presse à la restauration. On a dit que c'était sous-payé, que les heures étaient horribles, qu'on travaillait
Mais il y a eu des difficultés.
Oui, mais les difficultés ont été créées énormément par notre mauvaise presse qu'on s'est donnée.
OK.
On est allé sur toutes les tribunes, quand je dis l'industrie, pour dire que c'était compliqué. Puis les salaires se sont améliorés énormément, mais aussi, en même temps, les salaires des serveurs, avec l'augmentation des prix des matières premières, mm-hmm. les prix des ventes ont augmenté, donc le pourcentage de pourboire a augmenté, donc tout le monde s'est pas mal amélioré.
Moins sur la facture du consommateur, cependant.
Les salaires ont augmenté aussi.
Ouais.
Les salaires ont augmenté aussi.
La critique principale en ce moment, quand je demande aux auditeurs, c'est le prix, parce qu'ils ont le goût d'aller au restaurant.
Tout à fait. Mais la structure de prix, c'est-à-dire que, ici, si, admettons, puis on parle pour parler, c'était écrit 20 puis qu'on payait 20, puis ça incluait le pourboire puis les taxes, mm-hmm. comme dans plusieurs autres pays du monde, Europe. Ici, c'est parce qu'on a le prix plus 15 plus le pourboire. Aux États-Unis, le pourboire, les taxes, c'est 7. Fait que déjà là, tu as 8 de moins.
Tu as un gap de moins.
C'est ça. Mm. Puis les salaires aux États-Unis...
Tu renvoies ça, Robert, mettons, aux taxes...
aux taxes, puis à la structure de prix, parce qu'on a donné le fardeau de la preuve aux clients.
Le pourboire.
Pour le pourboire, etc. Puis aux États-Unis, les salaires minimums sont beaucoup plus bas qu'ici. Mm. Donc, le pourboire devient une ressource de revenus pour les employés qui gagnent beaucoup moins cher. Mais ici, ils gagnent aussi cher que presque en cuisine. Donc, on n'est pas venu faire le débat de ça, mais c'est le fun de parler de la profession parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont moins habitués à comprendre les rouages derrière.
Oui.
Puis cette industrie-là gagne à se faire connaître, mais de la bonne façon.
Oui, c'est très bien dit. Puis que ça devienne une profession aussi. Moi, à chaque fois, je trouve que c'est important de le dire quand on a un bon service à quelqu'un. Parce que, justement, ils vont détonner, ces gens-là, très passionnés. Ils vont être très intéressés à utiliser leurs connaissances. Sous-utilise, je trouve.
Tout le monde rêve, tu me disais en entrée de jeu, je rêve de ce marché-là, puis de ce monde-là, puis de la restauration, puis la bouffe, puis toute la quête. Puis, tu sais, avec les émissions, avec la démocratisation des émissions de télé, on a les chefs, mais ça date de déjà 30 ans. Ça va vite, là, mais le règne des émissions de télé, puis j'irai plus loin à Juliette Huot, puis Sœur Berthe, puis etc. La passion de la cuisine à la TV, puis... partout, ça existe depuis toujours.
Puis c'est accessible. Puis on s'en va dans un tunnel qui est peut-être vu comme étant inaccessible, soit les étoiles Michelin. Parce que je regardais, c'est pour ça que je t'ai contacté aussi ce matin, je regardais une nouvelle étude, puis un article qui jasait de ça, soit les restaurants qui souhaitent à tout prix avoir des étoiles Michelin pour leur promotion, entre autres, et leur reconnaissance auprès des pairs, auprès des consommateurs à travers le monde. Nous, on en a toujours pas à Québec, des restaurants qui ont eu la visite de ceux
parce qu'il faut appliquer pour qu'ils viennent nous voir.
Oui, à Québec. Mais qu'est-ce qui a bloqué? Pourquoi nous, on n'a pas ça à Québec?
Premièrement, il y avait le fait qu'il faut appliquer, payer, puis accepter qu'ils viennent, puis il y a un processus.
Mais qui fait ça? Paye, applique?
Habituellement, c'est des centres de congrès, les organisations touristiques, parce que le rayonnement de ces étoiles, macarons, etc., c'est outre frontière.
Oui, donc les gens vont... Il y a des gens qui font du commerce du tourisme de restauration. Là.
Il y en a un sacré paquet. Il y a un sacré paquet. Donc, c'est une reconnaissance. Mais aussi, c'est un étalon versus la mesure versus le monde de la restauration. Parce que les standards de sélection pour avoir les macarons, les étoiles, les Michelin, etc., sont pareils mondialement. Donc, il y a un guide ici.
Mais on pourrait... J'ose croire qu'on a des tables à Québec qui pourraient se qualifier.
On a des bibs gourmands. On a en masse de bibs.
Bibs gourmands.
C'est comme une sous-classe de je ne veux pas dire... Un autre style de catégorisation de Michelin pour pouvoir inclure plus de monde. Parce que des trois macarons, ça se compte sur une...
Oui, puis, c'est un grand prestige.
Puis d'après moi, au Canada, il n'y a pas 5 restaurants qui sont capables de se classer dans le trois macarons.
OK.
Puis je suis peut-être même généreux. Mm. Mais si on veut atteindre le niveau 3 macarons, il va falloir apprendre à se comparer à ce qu'ils font. Parce que c'est facile de dire que je cours vite, mais si je m'installe à côté de quelqu'un qui court plus vite que moi, tu vas voir que va falloir que j'apprenne à courir plus vite.
Mais pour ça, il faut aussi se donner le droit de. Donc, en tant que consommateur, être intéressé à. Mais est-ce que ça vaut vraiment la... T'sais, des fois, on voit ça un peu pincé, on voit ça un petit peu doigt en l'air. On voit ça inaccessible autant financièrement que dans l'assiette.
C'est surtout financièrement, parce que maintenant, j'étais avec quelqu'un qui travaillait dans l'hôtel Le Crillon à Paris, puis elle me disait, tu sais, maintenant, il faut aussi permettre à des gens de rentrer en flip-flop dans l'hôtel parce que les plus riches au monde veulent avoir de l'air le plus normal possible.
Oui, okay?
Donc, oui, il y a un côté financier, mais ceux qui y vont dans ces trois macarons-là, c'est parce qu'ils veulent payer la facture que ça va coûter.
Ouais.
Sauf que ma vieille phrase que j'utilise, c'est qu'on crée des freins ABS sur des Formule 1 pour que ça devienne aussi sur des Ford Fiesta. Bien, le 3 macarons, c'est la Formule 1 de la restauration, puis ça crée des habitudes, des standards, des choses comme ça. Puis après ça, on peut le rendre au niveau.
On est-tu trop petit peuple, Robert, pour avoir ça à Québec?
Non.
C'est ça le problème?
Non, c'est pas ça le problème. Arrêtez, là, il y a des petites guéguerres de gens, parce que tu sais, tu as lu les articles, il y en a qui croient ça, puis il y en a qui y croient pas.
Oui.
OK?
Moi, je suis divisée, là, parce que j'ai eu la chance une fois d'aller dans un, mais en fait deux, je vais nommer. Un, superbe expérience. L'autre, je pense qu'ils se sont assis sur leur laurier.
Puis ça arrive, puis là, tu remarqueras que jamais ils ont retiré autant d'étoiles qu'ils en ont retiré dans les dernières années.
C'est une bonne chose, ça.
C'est une chose normale, puis ça fait partie d'un positionnement qu'ils sont en train de voir.
Mais ça doit être une pression énorme pour un restaurateur, ces étoiles-là. Tu sais, je voyais qu'en 99, Marco-Pierre White, lui, a dit « Prenez mes 3 étoiles, je ne veux plus rien savoir. Malgré le marketing, la visibilité que ça m'a donnée, c'est une pression qui est insupportable, puis je n'ai pas besoin de maintenir ce statut d'élite-là. »
Marc Vera aussi, puis il y en a plusieurs, puis des Bernard Loiseau qui se sont suicidés, puis tu sais, il y a plein de choses comme ça, mais on le regarde avec un aura important, mais dans d'autres secteurs, des dentistes, puis des professionnels qui vont commettre l'irréparable parce qu'ils ont un échec, ça arrive aussi, parce que là, on les voit, puis tu remarqueras que les articles qui touchent des Michelin, bons ou mauvais, sortent habituellement dans les 2 semaines avant la remise. Là, il y a comme une effervescence. Mm. Là, on se met à en parler parce que ça va sortir. Donc, tu as ceux qui s'attendent à en avoir, tu as ceux qui s'attendent à en perdre, puis il y a ceux qui espèrent en avoir, puis ceux qui veulent pas en perdre. T'sais.
Mais ils perdent pas le focus sur ce qu'ils font réellement avec cœur et l'authenticité à ce moment-là parce que, admettons, je donnais l'exemple en début d'émission, quand j'ai été en Italie, Le premier voyage, vous allez me dire, tu as dépensé trop d'argent en Italie, je comprends. Oui, j'aurais pu avoir ma maison aussi en 2024, mais le premier voyage, je l'ai trouvé vraiment décevant côté alimentaire parce que justement, je visais peut-être un peu trop haut, on m'avait dit quelle bonne nourriture et tout, mais c'est quand je me suis mise à creuser dans les rues, aller manger avec les gens dans des restaurants de la place de quartier avec les ouvriers que là... J'ai découvert la cuisine italienne, là. Est-ce qu'on accorde trop d'importance à ça?
Je reviens sur mes formulaires, puis je reviens l'utilisation de certains produits, puis de trouver la nouvelle racine, puis de trouver le nouveau produit qui va faire qu'on se démarque des autres, OK? Ça fait partie de l'expérience. Mais des 2 macarons, des 1 macaron, ça va être beaucoup plus à taille humaine.
Ouais.
Mais il va quand même avoir une évaluation de fait. C'est-à-dire que tous ceux qui sont évalués sont réévalués de la même façon. Tu sais, il y a un standard qui est respecté. Que ici on a beaucoup on a peu de critiques.
Québec,
je vais parler du Canada. Ok. Okay? Le plus grand guide canadien des meilleurs restaurants, c'est le Top 100. Ok. Puis c'est un guide aléatoire avec peut-être 3 juges qui ont fait quelques restaurants. Puis c'est mutualisé. C'est-à-dire qu'ils vont tous mettre leur nom dans un chapeau. Ils vont dire, ah oui, lui il est bon, mais moi je suis jamais allé, mais je le connais de réputation. Donc on a peu, la chose la plus proche qu'on aurait des Michelin ici, c'est les diamants.
OK. Peux-tu nous donner plus d'informations?
Les diamants CA, c'est vraiment... ça marche par reconnaissance puis application. Tu demandes à te faire évaluer.
OK. Est-ce que quelqu'un passe dans ton resto? Est-ce que c'est un peu undercover? Est-ce que c'est un espion?
Oui, tout à fait.
La personne arrive puis elle a l'air de rien. Puis...
Ils prennent une réservation sur un faux nom.
Ouais.
Puis, ils vont sur... Mais les standards sont très précis. Donc, si tu évalues par rapport à un autre, si toi, tu es 4 diamants puis lui est 4 diamants, tu peux être sûr que les standards sont très, très similaires.
C'est facile à faire, ça, quand le menu est tellement différent, la cuisine
aussi.
Oui,
parce
aussi,
que c'est pas basé sur la nourriture en tant que telle, mais c'est sur l'ensemble de la prestation. Okay. Parce que tu as des points qui sont attribués à chacun des... l'accueil, le service, la facilité de réservation, le suivi après-vente, la présentation des vins, la carte des vins, le nombre de plats au menu... Le détail,
c'est très large.
C'est très, très large parce que c'est un art, mais en même temps, c'est une science.
Je vois les étoiles dans tes yeux.
Ouais, mais c'est exactement. Puis un bon burger, un bon smash burger, c'est aussi bon que ça. Tu peux pas mettre la cabane du pied de cochon avec la tanière dans la même liste des meilleurs restaurants au Canada.
Non. C'est pour ça que tu as des classes différentes.
Exactement, mais présentement,
mais c'est pas
nous,
moins bon,
on est... Non, exactement. On est des hyper généralistes, puis on voudrait, pour être très socialiste, on est très socialiste dans notre... On veut pas mettre trop personne sur le piédestal, donc on les met tous à peu près dans la même catégorie. C'est des restaurants où il y a du vin. Puis on dit, lui... Est... Fait que, tu sais, tu as Vin Mon Lapin qui est très bon, mais qui est une place
à
avec...
Montréal,
tu sais ça, puis admettons, à Québec, moi, j'adore aller au Gijac,
mais
Gijac, puis comparé à l'origine, c'est les deux, ils servent des huîtres, mais ils ne servent pas de la même façon que la même approche. Mais aller au Gijac, ouvrir le rideau, rentrer là, puis triper, c'est un bonheur. Mais tu n'y vas pas pour la même raison.
Non, je comprends.
Tu n'y vas pas pour la même raison. Donc, il y a dans ce marché-là, présentement, un marasme où on a de la difficulté à vouloir se mesurer entre nous dans des critères précis. Parce que nous, on est big bill, on est des têtes.
Puis la jeunesse adhère moins à ça. T'sais, je lisais des articles, là, la jeunesse de chef là, a décidé de bouder presque les étoiles Michelin. Puis ce genre de concept-là, ils ont envie d'être proches du monde, de triper et de pas nécessairement avoir à accueillir un espion. Puis ils se foutent de ça, ils se disent, moi, je vais vous faire triper puis avoir la meilleure table. J'ai pas besoin d'une étoile Michelin pour qu'on parle de moi. Avec les réseaux sociaux maintenant, avec X, Y, Z.
Je vais comparer ça à la mode. T'sais, on va partir de modes plus grunge à revenir à des modes plus chic. Mais c'est un peu la même chose. On a vécu une époque... Je fais à manger, fuck la mode. Et là, on réalise qu'on sait tout... Parce qu'il y a des constats. On se ramasse qu'on est tous pareils. Puis la bistronomie est venue écraser le haut de gamme puis le bas de gamme ensemble en disant on crée la bistronomie. Mais là, maintenant, de se démarquer dans la bistronomie, qu'est-ce qui fait que moi, je suis différent d'un autre? Parce que le meilleur restaurant de Québec, c'est le prochain qui va ouvrir. Parce que c'est toujours
parce
comme
ça. C'est la nouvelle tendance.
C'est toujours la nouvelle tendance. Donc, comment on se démarque un peu plus puis comment on se segmente? Puis c'est ça un peu l'éducation qu'on fait. Puis tu es une consommatrice exceptionnelle dans la tranche d'âge, le revenu, etc. Puis tu vas parler d'un smash burger, puis tu vas aller manger à Tanière 3 ou aller manger chez au Laurie Raphaël, ou tu vas aller manger, peu importe, je pourrais toutes les nommer, ceux qui sont plus dans le niveau haut de gamme, chez Muffy's.
Mais ça se fait que je trippe moins dans ces hauts de gamme, là, selon l'expérience.
Mais ça dépend. Tu peux arriver là, puis être enveloppé complètement, puis dire, tabarouette, tu sais, de se lever, puis qu'ils attendent de venir servir l'assiette, que tout le monde soit revenu à table, puis qu'ils roulent ta serviette de table. Oui, c'est des gugus, mais t'as payé pour te sentir transporté comme si t'étais pas dans la cuisine chez
de
lui.
De rien gérer.
Exactement.
Peut-être en terminant, Robert Dion, toi qui justement est éditeur au HRI Mag, puis qui trippe sur la restauration, puis qui nous fait tripper sur, puis j'aime ça quand t'arrives, puis tu dis on a autant de fun avec un smash burger qu'on a du fun sur une grande table où ils te donnent la petite serviette chaude là, avant de commencer à manger. Qu'est-ce qui manque à Québec? Qu'est-ce qui manque en ce moment? Ou encore, comment est-ce qu'on applaudit Québec en ce moment en restauration? Puis j'aimerais ça que tu le rendes très, très, très proche des gens.
Écoute, Québec, c'est une ville d'ultra-touristes. OK? Les bateaux de croisière, le carnaval, les événements. On est bien plus reconnus sur ce qu'on fait à l'extérieur qu'on puisse nous le reconnaître ici. Tu sais, on se pense bon. Mais on n'est jamais aussi bon que la réputation qu'on a ailleurs. Tu sais, les gens qui viennent ici en parlent en bien partout ailleurs. Donc, moi, je pense que de se faire reconnaître comme une entité, puis accepter des Michelin, puis accepter d'être jugé sur l'échiquier mondial pourrait, au lieu de s'auto-proclamer, on pourrait aussi se faire proclamer. Et ça, ça serait une belle chose pour la ville, puis parce que les gens qui repartent ici sont toujours heureux de leur expérience alimentaire, gastronomique.
Mais côté marketing, on ne pousse pas assez avec peut-être l'étendue de ce qui est reconnu à l'international.
En réalité, quand je parle à des fournisseurs, tout le monde voudrait avoir la commande à Montréal du toqué, mais voudrait dire qu'ils vendent au toqué, mais avoir la commande du centre des congrès. Ouais, parce que le volume est là.
En tant que producteur.
En tant que producteur, etc. On sert du haut de gamme pour se démarquer, mais on a... le monde va aux anciens Canadiens, puis moi encore au Continental, manger le steak en bois.
Ouais.
Donc, il y en a des choses qui sont faites tripantes, puis qu'on doit mettre sur l'échiquier mondial.
Plus de l'avant.
Exactement. Mm. Mais ça empêche pas qu'il y aurait des Michelin pour une catégorie. C'est-à-dire qu'on veut... Il n'y a pas assez de catégorisation de notre type de gourmandise pour faire venir différents types de personnes. On est très bon dans le haut de gamme. Il faut se faire reconnaître pour un autre secteur qui est notre approche familiale, produits locaux.
Mais je pense à un Kunda Hotel de ce monde. Je ne veux pas faire du name dropping, comme on dit en anglais, mais une gang de jeunes tripeux qui ont étudié la cuisine à l'extérieur, qui sont revenus, puis on dit on va faire quelque chose d'accessible, mais de vraiment fou, parce qu'on va prendre la cuisine d'ailleurs, puis on va utiliser des produits québécois, puis on va vous faire capoter dans votre assiette.
On est globavore, mais avec une approche locavore. C'est-à-dire qu'on veut manger des produits d'ici, cuisiner à l'international.
Et que ça ne soit pas une facture trop salée, parce qu'on veut y aller aussi.
Mais les ingrédients sont là. On va partager des plats, on va prendre un verre de vin au lieu d'une bouteille. On va trouver des façons que ça soit accessible.
Et on espère que ça va perdurer.
Oui.
On espère qu'il y aura un équilibre.
Manger.
Oui, ça, c'est ça. On espère qu'il y aura un équilibre sur la facture et l'expérience, mais en même temps sur le salaire aussi des employés, parce que ça fait toute la différence quand quelqu'un est passionné aussi.
Moi, je pense que le gros boom, le mur, on l'a frappé. Parce que la restauration pourrait être fine, parce que la restauration, c'est une industrie qui va être fine, c'est une industrie de service.
Ouais.
Donc, il y a bien du monde qui avait évité d'augmenter les prix de peur de déplaire aux clients.
Ouais.
Et on a gardé ça bas, jusqu'à temps qu'on soit rendu une certaine évidence, qu'on n'avait plus le choix. Et là, le drop a été, la pente montante a été
trop drastique. Ouais.
Mais à New York, où ils avaient déjà commencé à charger des hôtels à 450$, ils sont rendus à 475$, puis ça fait moins mal qu'ici, on paye des hôtels, mettons, à 200$ la nuit, puis on est obligé de les vendre à 300$ pour arriver.
Ça, c'est si on arrive à les vendre. Fait que c'est là où je me dis, va comme avoir un concern là-dessus. Quand je vois les commentaires des auditeurs, puis c'est des gens qui peuvent se gâter, mais qui disent à un moment donné, je vais me gâter dans mon lit avec ma nourriture que je vais avoir acheté au pire une épicerie fine de Québec. T'sais.
Oui, mais ça ne change pas l'expérience d'aller manger. Parce qu'on s'est construit des belles cuisines, mais on ne cuisine pas plus dedans.
Oui, t'as raison. Beau bonheur de t'avoir accueilli aujourd'hui, Robert Dion, éditeur chez HRI Mag. Fais suivre un peu tout ce qu'il fait, autant sur ses réseaux sociaux que sur le site web que dans le magazine. C'était le fun de jaser avec toi. Puis on retient de ça qu'on a à découvrir notre ville de Québec, mais surtout à la faire découvrir. Et c'est ce qui conclut l'émission. J'ai fini avec Robert Dion. Roy Davis avec Noferatu à Boulevard 102.1. Il est 10h53. Restez là. Yannick Marceau s'en vient. Marceau le midi va commencer dans un instant avec Tom Gauthier et je reste en studio. C'était bien le fun de vous jaser aujourd'hui. On reprend ça demain 10h.